Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous voici, comme prévu, à notre rendez-vous avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc, comme vous le savez très bien, notre mouvement accompagne les victimes d'abus de pouvoir judiciaire dans leur démarche visant le rétablissement de leurs droits ou la réparation des torts subis. Donc, l'enfer de la réparation. Et quelle réparation ? Physique, moraux, psychique, eh bien, des blessures profondes qu'aucun remède, des fois, ne pourra malheureusement guérir. Alors, dans ces cas-là, il reste aux victimes le soin de souffrir dans le silence, loin de tous les regards, et le chagrin dans cette course l'emporte à la fin, une fin dont la plupart du temps doublement tragique, partir, imaginez-vous, avec le poids de l'injustice sur le cœur et l'amertume de l'incapacité de faire face. Et quand vous creusez derrière tout ça, par souci, par exemple, de connaître la vérité, vous découvrirez, pardon, derrière tout ça, par exemple, un minable qui jouissait du pouvoir de l'État, un pouvoir sur les citoyens, et surtout ici, les citoyens ordinaires, hein, ces gens qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas les moyens colossaux pour faire valoir leurs droits. Donc, ces gens qui n'ont pas le prestige de ne pas être accusés au départ. Savez-vous qu'est-ce que vous trouvez derrière tout ça? Un minable, un abuseur, inconscient même du tort qui peut causer à autrui. Savez-vous qu'un faux témoignage suffit à lui seul de démolir la vie d'une personne ou d'un groupe en quelques secondes? Savez-vous aussi qu'une fausse accusation, qu'une simple, ou plutôt une falsification, qu'une simple falsification de preuves ou bien une négligence envers un accusé peut être malheureusement catastrophique dans la vie d'une personne. Et pensez-y, d'ailleurs, avant d'agir maladroitement, l'injustice retournera un de ses jours contre celui qui l'a semé. Combien de juges condamnent des accusés simplement par le premier regard? Combien de procureurs que je connais personnellement, hein, et qui ont mis le pied à fond sur la pédale pour écraser des accusés sans prendre réellement le temps et la peine de vérifier le travail des enquêteurs? Combien d'avocats profitent de la vulnérabilité des accusés innocents pour s'enrichir? Cette catégorie est de plus en plus en extension au Québec sans que le barreau agisse de façon préventive. Le barreau, une image, une institution d'image ici au Québec qui est loin de réaliser le cinquième de ses fonctions. Écoutez, je peux vous citer des cas et des cas au point où vous allez perdre complètement confiance dans notre système qui perd visiblement le contrôle de plus en plus. Mais qu'est-ce que vous voulez? La complexité de cette putain de vie rend les choses davantage compliquées. Et enfin, le compte, les citoyens, c'est eux, les citoyens ordinaires payent les cassé. Donc le pouvoir démarre où il reste toujours par la force des choses aveugle à plusieurs endroits, sinon complètement désorienté quand il est ignorant. Le danger est toujours là et qu'il est la prochaine victime. Voilà pourquoi nous revenons souvent à la charge pour vous inciter à remplir votre tâche. Chers citoyens, vos devoirs envers cette société qui ne peut se tenir droit en absence de votre volonté. Vous, chers citoyens, le premier et le dernier mot vous appartient. Avec vous ce matin, Hadj Zitouni, un militant du MAJ, un mouvement en défense des droits de la personne face aux institutions judiciaires. Appelez-nous au 514-721-273-4302, 273-4302, ou bien nous écrire info@commercialmage-quebec.com. Restez à l'écoute. Après notre thème musical, nous allons écouter ensemble le témoignage d'une résidente de Montréal qui vient nous raconter le traitement abusif qu'elle a subi récemment sous les mains des autorités policières alors qu'elle était enceinte de 30 semaines. Vous allez voir, par ce témoignage encore, on démasque une figure de l'abus de pouvoir de nouveau.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, où vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Rebonjour mes chers auditrices, chers auditeurs. Donc avant d'écouter le témoignage de notre invité aujourd'hui et de démasquer une nouvelle figure de l'abus de pouvoir dans notre société, permettez-moi de vous réciter les paroles de la maire de Friti Villanova après l'enquête publique qui a duré 107 jours. Donc la maire du jeune Friti et ce jeune abattu froidement en août 2008 par l'agent Jean-Loup Lapointe, un agent de la SPVM, lors d'une intervention policière qui reste pour la plupart illégale, la maire avec ces deux phrases avait conclu, et je cite, « Je suis sûr que si mes fils avaient été blancs ou québécois, cette tragédie ne serait pas produite. Mon fils est mort à cause du profilage racial et que l'auteur de ce crime ne devra pas rester dans le corps policier. » Fin de citation. Cette conclusion est crédible pour la majorité des Québécois et Québécoises et selon mon expérience plutôt personnelle, moi, l'estie d'immigrant, je vous assure qu'elle a raison à 99%, mais vous pouvez pouvez ne pas la croire. Donc, mais maintenant, écoutons la conclusion du président de la fraternité policière qui déclare aux journalistes en sortant de la salle d'audience, et je cite, « J'espère que la population va retenir qu'on n'attaque pas aux policiers. » Fin de citation. Donc voilà, la réponse de l'abus de pouvoir. Voilà le raisonnement de la fraternité des policiers à tort ou à raison. Voilà le message de la brutalité, et pourtant, on garde toujours cette image du jeune Freddy en train de jouer dans le parc avec ses amis. Freddy n'avait attaqué personne, et en vérité, c'est plutôt les policiers qui l'ont attaqué, les policiers qui sont venus l'intimider, intimider ses amis. C'est une honte qu'un représentant de la police ne trouve rien à dire d'intelligent. C'était plutôt beaucoup mieux s'il ne l'avait pas ouvert cette gueule à ce moment-là. Passer de tels messages d'ordure à la population qui déplore les abus des autorités policières qui se multiplient ces derniers temps, c'est une honte. Enfin, il y a énormément de choses à dire à ce stade, mais nous n'avons malheureusement pas assez de temps pour le dire. Donc je ferme cette parenthèse pour le moment et je reviens à mon invité d'aujourd'hui, une dame enceinte, présentement de 33 semaines, qui a pris la peine de venir ici nous voir et elle a insisté de vous raconter son histoire, une histoire très récente. On parle de 3 février, la victime dans ce dossier, par son témoignage libère sa conscience de citoyenne et vous incite, vous chers citoyens, de dénoncer publiquement les abus et les injustices. Nous croyons fermement alerter l'opinion publique. Écoutons Madame Saint-Jean. Voilà donc, bonjour Madame Rosilia Saint-Jean, c'est votre nom si je ne me trompe pas?
Oui, c'est mon
nom. Donc, et vous avez 39 ans. Vous êtes résidente de Montréal.
Oui.
Et vous êtes mère aussi de 6 enfants. Et présentement, vous êtes enceinte de 33 semaines, si ma mémoire est bonne.
Ouais, 33
c'est ça.
Semaines, oui.
Peut-être la première question rapidement. Avez-vous des problèmes de santé?
Oui, actuellement, je fais diabète de grossesse. Puis j'ai porté mon bébé. C'est un bébé à risque. C'est une grossesse à risque, c'est ça.
Et comment vous voyez ça? Vous avez 6 enfants, vous êtes enceinte, j'imagine que vous êtes complètement épuisée là, si je me trompe
pas.
Oui,
c'est que moi, je m'occupe de mes enfants, puis et comme ma fille, elle est un petit peu elle est grande aussi, elle a 18 ans, elle est capable de m'aider un peu, mais c'est plus le boulot, c'est plus moi qui l'ai fait à la maison. Là,
oui, vous parlez de votre fille qui a 18 ans, mais elle va à l'école et tout.
Oui, elle va à l'école.
Donc la journée, c'est vous qui s'occupe des enfants et tout.
Oui, c'est moi qui m'en occupe.
C'est un travail et tout. Maintenant, madame, vous avez souhaité réagir publiquement pour dénoncer le comportement de certains policiers de la SPVM suite à un événement récent qui est passé le 3 février 2011, ce mois-là, à 4h du matin, où vous étiez parti pris justement dans ce triste conflit. Mais peut-être avant de nous raconter les circonstances qui ont mené l'intervention des agents de la SPVM ce jour-là, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez insisté de dévoiler votre histoire au public ce matin?
Oui, je vais dévoiler certains comportements des policiers qui s'est passé le 3. Le 3, c'est que je voulais
pourquoi,
pas que...
Pourquoi vous voulez dévoiler ça au public?
Parce que je veux pas que d'autres femmes subissent la même chose que moi. Parce que je crois que être enceinte, puis c'est un moment qui est très délicat.
Oui.
Puis la façon que les policiers ils m'ont brutalisé.
Le traitement, vous parlez.
Les traitements, c'est oui. Ça. Puis c'est quelque chose qui est vraiment pas permis, c'est tout. Quand une femme porte un bébé.
Et vous souhaitez épargner ça à d'autres femmes?
À d'autres femmes aussi.
D'autres victimes qui peuvent être au futur des victimes potentielles, c'est ça?
Oui, oui.
Oui. Maintenant, revenons peut-être aux circonstances qui ont mené à l'intervention policière. Voulez-vous nous dire pourquoi ces policiers, ce jour-là, le 3 février, à 4h du matin, l'arrivée des policiers chez vous?
Oui. C'est que moi, j'ai un conjoint, puis... Je demeurais avec lui. Puis actuellement, bon, il est plus là dans ma vie.
Il n'est pas dans le décor, oui.
Oui, c'est ça. Parce qu'il rentre tard. Depuis que je l'ai rencontré, c'est toujours pareil. Il rentre toujours à 3h du matin, 4h du matin. Puis moi, j'en avais vraiment assez. Puis,
vous l'avez avisé comme quoi?
Oui, j'avais avisé.
Un petit peu,
ouais. Exactement, j'ai avisé à l'avenir que je pourrais plus supporter ça parce que vu que j'avais les bébés tout seul, puis c'est pas un bon moyen d'élever les enfants dans cette situation-là.
Ouais.
Parce que je veux pas que mes enfants soient et comme ça, et plus tard, comme quoi, qu'ils trouvent que c'est normal d'entrer tard, comme,
ah, dans le,
comme
tu, qu'est-ce qu'ils font. Vous parlez d'éducation des enfants.
Oui, éducation des enfants.
Ça peut appartenir à l'éducation des enfants.
Oui.
S'ils vont voir un conjoint, un modèle de père qui rentre à cette heure-là tardif, oui, ils peuvent suivre l'exemple, c'est
l'exemple,
ça?
L'exemple, exactement.
Donc maintenant, moi je suis, nous pouvons tous, par exemple, imaginer l'état d'une femme enceinte de 33 ou 32 semaines et tous les changements physiques qui se produisent dans un tel processus de grossesse.
Oui.
Encore attrapée par l'insomnie, j'imagine. D'ailleurs, être réveillée à cette heure-là, prouve le stress et la fatigue qui peuvent être un facteur suffisant à lui-même pour incommoder sérieusement une personne dans telle condition, j'imagine. Donc, nous pouvons comprendre à la rigueur une perte de contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette tardive pour que les policiers se pointent chez vous, madame?
Ben, c'est que le 3 février, il est entré exactement vers 4 du matin. Puis là, puis c'est là.
Et vous étiez réveillée, hein?
Oui, moi, j'étais réveillée.
Vous l'attendez ou c'est...
Ben, moi, je l'attendais parce que je voulais vraiment, j'avais dit vraiment c'est assez,
oui,
que je voulais plus supporter ça, puis oui, qu'il devrait partir, là. Vraiment, okay, qu'il devrait partir.
Comme vous l'avez déjà visé d'avance plusieurs fois,
plusieurs
il n'a pas respecté...
Il n'a pas respecté tout, oui, ça. Puis là, puis il continue à entre-temps. Puis là, puis les 3 février, c'était vraiment... C'était comme c'était épuisant, c'était vraiment dépassé. Là,
ouais. Et vous avez passé toute une nuit réveillée.
Réveillée.
Attendre. À 4h du matin, lui, il rentre d'abord. Et vous, ouais, allez le voir. Vous l'avez dit quoi, madame?
Là, j'ai dit, dépose mes clés, la clé de la maison. Puis mon auto aussi, c'est avec mon auto qui part toujours.
Il se promène,
puis,
oui,
il se promène. Puis là, puis j'ai dit, dépose mes clés, puis avec la clé de l'auto.
Et Calice, ton camp de la plage, j'imagine.
Oui. Puis là, c'est là qu'il a juste déposé la clé de l'auto,
de
c'est
l'auto,
tout.
Oui. Il a gardé les clés d'appartement?
Oui, oui.
Mais vous l'avez demandé de ne plus revenir, j'imagine.
Oui, j'ai plus, ouais, de revenir. Mais lui, j'ai dit, tu prends tes affaires, tu retournes, où est-ce que... Tu étais,
oui, oui, oui.
Voilà, lui, il n'a pas pris.
Il n'a pas aimé ça.
Il n'a pas aimé ça. Puis j'avais ma fille qui est plus grande, là, qui est réveillée.
Oui.
Puis elle, là, avec un petit peu de bruit, parce qu'elle écoutait ça, là, c'est plus elle qui est plus vieille, là, fait que.
Oui.
Elle est réveillée, puis elle a descendu au rez-de-chaussée.
Oui.
Puis c'est là qu'elle a dit, mamie, calme-toi. Mais là, j'ai dit, non, il doit partir, absolument, parce que je n'en peux plus.
Mais lui, il a pas voulu partir, ou il a voulu rester, c'est ça?
Mais il m'a dit comme des insultes, là, comme quoi, oh, tu vas rencontrer un autre, je ne sais pas, il vaut rien.
Oui.
Il a dit, bon, ben, moi, je l'ai répondu, là. Il a dit, ben, il vaut rien, c'est toi, parce que. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais juste partir, puis revenir à 3h, 4h du matin. C'est insupportable. Tu dois partir.
Mais après les paroles, ça dégénérait un petit peu. Est-ce qu'il y avait comme quoi? Est-ce qu'il vous a poussé? Vous l'avez poussé? Est-ce que vous avez,
moi, je ne l'ai pas poussé.
Vous ne l'avez pas touché non plus.
C'est juste que je ne voulais pas qu'il monte à l'étage pour réveiller les autres enfants.
Oui.
Exactement.
Donc, il l'a empêché de monter à l'étage.
J'ai empêché de monter. Puis là, j'ai dit à ma fille, reste en bas. Puis là, c'est là que je commençais à prendre... Mais il y a... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire,
ouais,
aussi, là,
ouais,
parce que c'est vraiment... C'est vraiment insultant qu'est-ce qu'il m'avait fait auparavant.
Ouais.
Puis il voulait me cracher dans la face.
Pourquoi? Parce que vous l'avez empêché de passer?
Oui.
Pour aller à l'étage, pour dormir?
À l'étage, hein, oui, 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 oui. Il voulait me cracher dans la face. Puis là, puis j'ai
donc
dit non...
Donc, vous n'avez pas aimé ça, j'imagine, oui?
Non, je n'ai pas aimé ça. J'ai dit non, tu ne me cracheras pas dans la face. Puis là, j'ai dit à ma fille, reste ici. Puis moi, j'ai monté à l'étage. C'est là que j'ai commencé à pousser ses affaires. Je descendais avec, tranquillement, puis ma fille...
Ah, vous avez prévu ses affaires? Vous l'avez remis ses affaires pour qu'il s'en va, c'est ça?
Oui. Oui. Puis là, puis c'est ça, là. Puis lui, il n'a pas accepté ça.
Ben,
c'est là que, pendant que j'étais dans l'étage, je montais encore pour faire un autre voyage.
Oui.
Puis là, c'est là qu'il a appelé la police en arrière de moi.
Ah, c'est là qu'il a appelé la police?
Oui, il a appelé la police, puis il est sorti.
Ok, pourquoi il n'a pas accepté que vous le mettez dehors de chez lui quelque part, chez vous, mais chez lui aussi. Il n'a pas aimé ça, donc il s'est révolté et il a appelé la police.
Oui.
Donc voilà, mais vous m'avez dit, si je ne me trompe pas, qu'il est parti avec les clés de l'appartement.
Oui,
de la maison,
il est parti avec les clés, oui, oui.
Et qu'est-ce que vous avez fait quand il est... Vous ne savez pas qu'il a appelé la police, vous pensez qu'il est parti, c'est
possible? Oui, je pensais qu'il est parti. Moi, je voulais que les enfants, vu qu'il ne restait pas beaucoup de temps, pour qu'ils se réveillent pour aller à l'école.
Oui.
Et là, puis je montais à l'étage. puis c'est là que ma fille a dit, il y a la police, parce que ma fille était encore en bas. Oui. Il a dit qu'il y a la police, ma maman.
C'est parfait. On va juste prendre une petite pause musicale, madame, et on va reprendre un petit peu votre témoignage.
D'accord.
Voilà, donc, rebonjour, madame Rosilia Saint-Jean.
Bonjour.
Vous nous avez parlé un petit peu de la première partie, si je me permets. Et vous nous avez dit, maintenant, nous sommes arrivés à la partie de l'arrivée des policiers chez vous. Donc, pour vous, si j'ai bien compris, le monsieur a pris son sac, ses affaires, et puis il est parti. Mais vous ne savez pas qu'il avait appelé la police.
Non.
Et vous êtes rendu chez vous, vous êtes monté dans l'étage où il y a ta chambre, et vous êtes pour dormir, c'est ça?
Oui.
Et qu'est-ce qui t'est arrivé après, madame?
Ben, c'est là que ma fille, la plus vieille, a dit, il y a la police... à la porte. Mais avant ça, c'est que vu que le monsieur est parti avec la clé, la maison.
Ah, c'est vrai, oui.
Moi, je voulais me protéger. Je voulais protéger les enfants qui ne reviennent pas à la maison parce qu'il
avait la clé et en tout temps, il peut mettre la clé dans la serrure et rentrer, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça?
Moi, j'ai pris mes 6 chaises que j'ai.
Oui.
J'ai mis en arrière de la porte.
Ah, tu as barricadé la porte avec des chaises?
Oui.
OK.
Là, j'ai mis les 6 chaises.
Oui.
Puis là, les policiers, ils arrivaient.
Quand les policiers sont arrivés, oui.
Puis ma fille a dit, ben maman, ils sont en train de foncer. Puis là, je suis descendue.
Oui.
Puis là, j'ai dit, bon, écoute, je suis en arrière de la porte. Arrête, parce que les autres, ils poussaient.
Oui.
Puis là, j'ai dit, mais je suis en arrière de la porte. Et arrêtez de pousser, attends. Les autres, ils n'ont pas voulu attendre.
Ils n'ont pas écouté, là.
Ils n'ont pas écouté parce qu'il y a 6 chaises, là. Ça prend du temps pour enlever les chaises.
Tout à fait. Mais...
Puis là, le temps que je l'ai pas, j'ai dit, arrêtez de pousser, je vais enlever les chaises.
Et vous avez commencé déjà à enlever les chaises?
Oui, j'ai commencé à enlever les chaises, mais il y en a une qui est glissée sous mon ventre à moi.
Ah, t'as frappé sur le ventre?
Qui m'a frappé, oui.
Et donc,
parce que les autres, ils poussaient en même temps que moi, je voulais enlever.
Et qu'est-ce qui est arrivé après, madame?
Puis là, le temps que j'enlève, je débarrasse toutes les chaises, il y a d'autres policiers qui sont descendus au sous-sol, ils ont défoncé la porte.
Parce qu'il y a une autre porte au sous-sol?
Oui, il y a une autre
porte. Qui amène à la résidence, à votre résidence?
Oui, oui.
Ils ont défoncé cette porte-là?
Oui. Puis là, ils ont réveillé les trois garçons qui dormaient.
Oui.
Puis ensuite, quand ils sont entrés, moi, j'étais dans une petite tenue.
C'est vrai, vous dormez, c'est soulevé de votre chambre.
Là. Oui, oui, oui.
Et quand vous avez entendu les policiers monter à l'étage, vous avez fait quoi, madame?
Mais là, j'ai assuré mon fils qui a 5 ans parce qu'il dort toujours avec nous.
Ouais.
Puis il n'était pas encore réveillé, lui.
C'est-à-dire, quand vous avez entendu les policiers, j'imagine que vous êtes parti dans votre chambre parce que vous n'étiez pas dans une tenue.
Oui, pour recevoir.
Pour recevoir des gens.
Exactement. Puis là, je voyais que mon fils bougeait dans les lits, puis je me suis mis à côté. Puis là, à côté de lui, dans les lits. Puis c'est là que les autres...
Mais t'es essayé de s'habiller ou... T'es essayé de s'habiller?
Oui, j'essayais de m'habiller, mais les autres, ils ne m'ont pas laissé le temps. C'est comme...
Ils sont rentrés chez vous, mais la porte... Vous m'avez dit que la porte est fermée, si je ne me trompe pas?
Oui, j'avais fermé la porte.
Pourquoi?
Parce que je ne voulais pas que les autres, ils me voient tout nu, là.
Ah, ok, oui, je comprends.
C'est ça, puis c'est là qu'ils ont défoncé...
La deuxième porte qui est dans votre chambre, c'est ça?
Oui, dans ma chambre. Et ils ont défoncé la porte, puis ils ont prêté le revolver... sur moi, puis mon fils est réveillé en plus, parce qu'avec les bruits.
Et t'as pointé le revolver?
Oui, le revolver sur moi.
Alors que vous êtes dans votre chambre,
le lighter, là.
Oui, oui.
Oui.
Le point Cayenne.
C'est comme... on peut dire ça, là.
Une lampe de poche?
Une lampe de poche, oui. Voilà, avec le revolver, là.
Oui.
Puis là,
Mais là, vous étiez juste vous et votre fils de 5 ans?
De 5 ans.
Et avec ça, le policier ou la policière, je ne sais pas, elle vous a pointé avec le pistolet en...
Oui.
En rentrant, c'est ça?
C'est un monsieur qui m'a fait
pointu
ça.
Pointu avec le policier, avec son gars. Et qu'est-ce qui t'est arrivé, madame, après?
C'est là qu'il dit, habille-toi. J'ai dit, mais écoute, laisse-moi le temps de m'habiller.
C'est ça.
Puis là, ils ne m'ont pas laissé le temps de m'habiller. C'est là qu'ils m'ont sorti, ils m'ont tiré pas les bras là.
Ouais.
Puis des forces là, une femme enceinte, imagine donc. Puis là, puis c'est là que j'ai dit, écoute, je suis enceinte, une grossesse à risque. Là, ils m'ont passé des minutes, là toutes les enfants étaient réveillés, les enfants pleuraient.
Devant tout le monde, ils ont
devant
fait
toutes
ça.
Les devant enfants, les enfants, ouais. Ouais, ouais. Devant les enfants.
Les enfants pleuraient, j'imagine.
Oui, ouais. Les enfants pleuraient, puis ma fille elle pleurait. Ma plus grande, là, puis celle qui a 9 ans aussi.
À ce moment-là, ils n'ont pas pris le temps de vous parler, madame? Directement, ils sont foncés chez vous?
Ils sont foncés chez nous, et vous êtes en état d'arrestation.
Et ils vous ont mis les minottes?
Les minottes, oui.
Dans votre chambre?
Ouais.
Sur votre lit, j'imagine?
Dehors. Ils m'ont sorti dehors de ma chambre, ouais. Là. Puis c'est là qu'ils m'ont passé les minottes.
Et qu'est-ce qui t'est arrivé, madame?
C'est là qu'elle a rendu en bas. Puis il voulait que j'y mette des bottes. J'ai dit, écoute, j'ai même pas de culottes sur moi, rien du tout. Vous voulez m'amener au poste comme ça.
Vous avez demandé,
en
moi, je prends le temps de m'habiller.
C'est ça, ils n'ont pas voulu. Là, j'ai dit.
Ils ont empêché.
Ils m'ont empêché, exactement. Puis là, c'est là qu'ils voulaient que je mette des bottes, mais les bottes qu'ils m'ont mis. C'est les bottes parce que j'avais des minottes là en arrière très serrées.
Vous pouvez pas, ouais,
en plus, ouais. Je voulais même pas bouger, mettre mes bottes. Puis ils ont pris les bottes à ma fille, n'importe quelle botte là. Puis c'était des bottes, il y avait des trous, pas de bas, pas de sous-vêtements en bas, rien du tout. Puis ils m'ont sorti avec les manteaux juste sous les dos comme ça. Dans les foies.
Madame, je ne comprends pas, moi. L'arrestation, est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi toute cette force excessive et tout, les menottes, tout ça, est-ce qu'ils ont pris le temps, au moins, de vous expliquer pourquoi ils vont vous arrêter?
Ils ne m'ont pas expliqué, là. Ils m'ont juste dit...
Vous êtes en état d'arrestation?
Oui, en état d'arrestation.
Ils n'ont pas dit pourquoi?
Ils ne m'ont pas dit pourquoi, non.
Oui, c'est... D'abord, donc voilà, mais vous partez de chez vous, les policiers plutôt, ils vous amènent, oui, dans une arrestation comme ça, je ne sais pas, à 4h, 5h du matin.
Oui.
Et les enfants, ils sont restés. Comment c'était la situation des enfants derrière vous, madame?
Les enfants, une chance que j'avais ma fille avec moi. Puis
est-ce que les enfants criaient? Est-ce que, dans quel état ils étaient, les enfants?
Oui, les enfants pleuraient, puis c'était vraiment dur parce que c'est triste, c'est vraiment triste la façon qu'ils ont fait ça. Puis brutaliser une femme enceinte, c'est, ouais, terrible, c'est pas facile. Puis quand ils m'ont mis dans l'auto...
Ils vous ont conduit dans l'auto, oui.
Ils m'ont conduit dans l'auto, j'étais vraiment mal à l'aise. Ouais. Puis avec les pieds, puis je suis pas capable de placer mes pieds, c'était coincé en arrière l'auto. En plus,
là, vous dites que c'était pas dans une position
confortable, non, oui, non.
Et il faisait froid cette nuit-là, madame?
Oui, ensuite il faisait très froid.
Le 3 février.
Ouais.
Donc avec ça, après ça, vous êtes rendu au poste de police, j'imagine?
Oui.
De quel poste de police, madame?
C'est celle sur l'Angélier-Saint-Léonard.
L'Angélier-Saint-Léonard.
Oui.
Une fois que vous êtes rendu là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, madame?
Ben c'est là que je suis arrivée là-bas, puis il y a des messieurs qui conduisaient. Il a descendu l'auto, il dit « Descends ». J'ai dit « Comment vous voulez que je descende avec les minottes
attaché
dans les mains, puis mal à l'aise ?» Mais c'est...
Vous ne pouvez pas descendre parce qu'il y avait votre ventre et tout en avant.
Exactement, c'était vraiment coincé là en arrière. Mm. Puis là, puis c'est là que il y a une policière.
Une femme policière,
ouais,
oui,
elle,
qui est intervenue.
Très, oui, c'est là qu'elle m'a enlevé les minottes,
ah, okay,
pour que je puisse sortir de l'auto.
Oui. Et vous êtes rendue, après ça, vous êtes rendue au poste de police?
Oui, je suis rendue au poste de police. C'est là que c'était encore horrible.
C'était horrible.
Oui.
Écoutez, Madame Rosalie, on va faire une petite pause musicale et on va reprendre un petit peu votre témoignage d'aujourd'hui.
Oui.
Aimeriez-vous donner un coup de pouce à votre chiffre d'affaires? Votre entreprise est-elle dans la grande région de Montréal? Aimeriez-vous rejoindre de nouveaux clients potentiels? Radio Centre-Ville vous invite alors à vous faire connaître davantage. Plusieurs auditeurs de diverses communautés de Montréal pourront entendre parler de votre entreprise sur nos ondes. Pour vous renseigner sur les communautés que nous rejoignons et sur les possibilités qui s'offrent à vous sur Radio Centre-Ville, téléphonez au 514-495-8836. 495-8836. Ou écrivez-nous à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de votre entreprise sur Radio Centreville.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centreville 102.3 FM. la radio multilingue de Montréal.
Vous habitez les quartiers Rosemont, la petite patrie ou Villeray. Vous avez entre 15 et 35 ans. Alors rendez-vous à l'événement Fais des choix pour toi, mercredi 16 mars à 13h. Venez rencontrer des organismes et des employeurs. Renseignez-vous sur les programmes de formation, les offres d'emploi et de stage. Participez à des ateliers pour votre recherche d'emploi. Fais des choix pour toi, mercredi 16 mars de 13h à 19h au Centre de la jeunesse ukrainienne, 3270 rue Beaubien Est. Informations 514-279-87 25 ou visitez faitdeschoixpourtoi.com en collaboration avec le journal Métro et Radio Centre-Ville.
En matière de musique du monde, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Chers auditrices, chers auditeurs, donc restez à l'écoute, on va écouter une musique et nous revenons avec le témoignage de la victime. Donc, rebonjour Madame Rosalie Saint-Jean, résidente de Montréal. Revenons maintenant, peut-être à cette troisième partie, une fois vous êtes rendu au poste de police de Longelier et Saint-Léonard. Mmh. Pouvez-vous dire à nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, c'est là qu'il y a là, une policière qui était là aussi, là, oui. Au moment. Elle a dit qu'elle est enceinte de 29 semaines. Puis les autres, ils ont écrit sous l'enveloppe, juste 29 semaines, mais 29 semaines, pas de 29 semaines de grossesse, rien là.
Ah, ils n'ont pas précisé?
Non, ils n'ont pas précisé, non. Puis là, ils m'ont fait, je voulais m'asseoir parce que j'étais vraiment épuisée avec tout ce que je vivais là.
Comment voulez-vous m'asseoir? Est-ce que vous avez réclamé, vous avez dit, je veux m'asseoir, j'arrive plus à être debout? Vous avez,
oui, j'étais épuisée, j'arrivais pas à être debout là. Ouais.
Et vous avez demandé d'avoir une chaise?
Oui. Puis là, puis ils m'ont dit, asseyez-vous sur les bancs, là, c'est les bancs très durs. Ouais. Pour une femme enceinte encore, c'est encore vraiment pas confortable.
Mais au moins, vous avez eu des bons, c'est bien.
Oui. Puis c'est là qu'elle m'a dit, il y a un autre policier qui a demandé, avez-vous un avocat? J'ai dit non. Là, c'est là qu'ils m'ont fait parler dans une cabine. Puis enlever, oui. J'avais froid. Tout ça, puis...
Il y avait froid?
Oui, j'avais froid.
Tu as eu froid quand tu es rendu là-bas?
Oui, puis les minotes, ils voulaient enlever mon bracelet, puis ça ne pouvait pas sortir parce que...
Oui, ils ont voulu enlever le bracelet. Ah, c'est vrai, ils ont tous les effets, là.
Oui, tous les effets personnels.
Et là, ils ont voulu enlever le bracelet de votre poignet?
Oui, ça n'a pas marché parce que... À cause que les minotes étaient tellement serrées...
Ah, l'avant-bras, il a gonflé.
Oui, ça a gonflé, c'est vraiment enflé. Puis c'est là que j'ai dit, je peux pas enlever cette bracelet-là parce que c'est pas capable d'enlever. Puis là, les autres, ils disent, OK, tu peux le garder, là. Puis là, j'ai parlé avec l'avocat, ils m'ont dit de rien dire.
Oui, de garder le silence, oui.
Oui, de garder le silence. C'est là qu'après, ils m'ont conduit dans une cellule.
Dans une cellule?
Oui.
Ils vous ont conduit dans une cellule? On parle de 4h30, 5h... 4h30, 5h du matin, ils vous ont conduit dans une cellule. Dans quel état, dans quelles conditions vous étiez dans cette cellule-là, madame?
C'était très difficile, il faisait froid.
Est-ce qu'ils vous ont donné une couverture pour
vous? Ils ne m'ont pas donné une couverture.
Pas de couverture?
Puis j'avais froid aux genoux, pas de balles dans les pieds, les bottes qui étaient comme mouillées, humides. Oui. Puis c'était vraiment pas confortable.
Juste pour s'y donner, souligner aussi, je pourrais dire, on va revenir, mais vous êtes quand même resté, j'ai mentionné ici, vous êtes quand même resté de 4h ou 5h du matin jusqu'à. Vous êtes libéré, plutôt pas libéré, mais c'était conduit à l'hôpital après,
oui.
Jusqu'à 14 heures. C'est-à-dire que vous avez passé quand même plusieurs heures dans cette cellule.
Dans cette cellule.
Revenons sur les conditions de cette cellule-là pour une femme enceinte de 30 semaines.
Oui. C'est qu'arrivée dans la cellule, puis ils m'ont juste donné du jus d'orange avec un gâteau au chocolat.
Oui.
Là,
vous l'avez pris?
Là, ils l'ont comme pitché sur les bancs.
Oui,
oui. Oui, comme si j'étais une chienne, là.
Oui.
Ils ont pitché ça. C'est juste là, on va vous donner pour les souper. Là, pour les déjeuner, excuse-moi.
Oui.
Puis là, j'ai dit, mais je ne mangerai pas ça parce que je dois prendre mon glyco. Parce que je fais diabète de grossesse.
Ah,
je ne peux pas manger cette affaire-là.
Je demande sucré. Oui, c'est vrai.
Oui.
Les gâteaux sont sucrés. Est-ce qu'ils ont remplacé ça?
Non, non plus, rien du tout.
Vous êtes resté, c'est-à-dire sans rien manger de 4h du matin jusqu'à 14h.
Jusqu'à 14h. J'avais soif, j'étais vraiment déshydratée.
Oui. Puis... Revenons sur la couverture, tu as eu froid. Est-ce que vous avez réclamé une couverture?
Ben, j'ai vraiment pas réclamé, mais c'est que j'avais de douleurs après. C'était plus d'un coup, j'avais chaud. C'est des fois, après, d'un coup, j'avais chaud, là, puis les douleurs.
Oui, oui.
J'avais des contractions.
Ah, ça a commencé d'avoir des contractions.
Oui, ça a commencé des contractions.
Ça, j'imagine, c'est à cause du stress très élevé, j'imagine.
Oui, le stress, puis tout ce que j'ai vu, les choses que j'ai vues qui est vraiment horrible, là.
Mais dans ces heures-là, vous avez passé dans la cellule, madame, avez-vous parlé à un policier? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un policier, d'abord, par contre, qui est venu vous voir, vous parler ou non?
Elle est venue me voir, elle m'a dit... Tiens, prends tes glycos. Mais j'ai dit, moi, je ne toucherai pas cette machine-là, ce n'est pas à moi. Je ne sais pas, c'est qui est passé là-dedans. J'ai dit
oui,
non.
Vous avez raison. Oui.
J'ai dit, j'ai mes affaires personnelles. Puis,
est-ce qu'ils sont allés chez vous pour chercher vos médicaments et tout? Ils sont allés chez vous?
Oui.
Ils ont ramené vos médicaments?
Oui, ils sont amenés, mais c'était comme, c'est, je savais pas c'est quelle heure qui était. C'était une journée avant que je devais prendre, avant de manger.
Oui.
Puis je savais pas c'était quelle heure il était. Puis personne m'informait comme quoi qu'il était quelle heure, tout ça. Là, fait que, et je pouvais pas, mais après combien de temps, là, j'imagine.
T'étais un peu déboussolée, tu étais en train de
me dire. Oui, oui. En plus, j'avais des douleurs, j'avais des contractions. J'ai appelé à l'aide. Il y en a personne qui est venu me voir. Jusqu'à la fin, il dit, pourquoi vous criez comme ça? J'ai dit, j'ai mal. Mon bébé, j'en peux plus parce que mon bébé a mal. Puis moi, les autres, ils sont répartis. Puis ils me laissaient, moi, je pleurais.
Une chance qu'il y avait. Dans la cellule, oui.
Oui, dans la cellule toute seule.
Une chance qu'il y avait quoi, madame?
Une chance qu'il y avait. J'ai prié. Oui. J'ai senti que Dieu était avec moi.
Oui.
Pour vous donner la force un peu, mais j'avais toujours mal.
Oui.
Toujours mal. J'ai souffert des contractions. Je marchais un peu dans la cellule. Puis là, puis j'avais aucune orientation, c'était quelle heure il était. Puis.
Vous demandez au secours, là.
Ouais,
j'ai
demandé au secours,
de
j'ai besoin de l'aide, j'ai mon bébé, j'ai des contractions, c'était des vraies contractions.
Quand vous avez, madame, quand vous avez commencé de dire que j'ai un problème, j'ai mon ventre, j'ai des contractions et tout, c'était à quelle heure vous avez réclamé ça?
Je ne sais pas c'est quelle heure qu'il était.
Mais entre le temps qu'une ambulance venait vous chercher et d'avoir ces douleurs-là, est-ce que c'était une heure, deux heures, trois heures? Combien de temps ça a été passé? Cinq minutes, deux minutes, je ne sais pas moi.
Non, mais avant ça, il y a un enquêteur qui est entré.
Ah,
venue
vous voir?
Elle est venue me voir.
Oui.
Puis c'est là qu'elle a dit quelque chose. Ça, c'est quelque chose encore mentalement. C'est,
ah, ça vous n'avez pas cru, c'est ça?
Elle ne m'a pas cru. Oui. C'est que j'ai dit... avant ça, elle m'a dit que, est-ce que vous êtes assez folle pour qu'on laisse sortir? J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais j'ai des douleurs, j'ai mon bébé dans mon ventre, j'ai reçu un coup de chaise, puis mon bébé est en train de souffrir, puis là, vous venez me traiter de folle? Puis c'est là qu'elle dit, non, j'ai rien dit.
Oui.
Il y avait les caméras, elle dit, oh non, j'ai pas traité de folle. J'ai dit, oui, vous m'avez traité de folle. Là, il voulait que je signe, j'ai dit, non, je voulais pas signer, tant
signer
que je
quoi,
parle pas. Je ne sais pas.
Ok, vous avez proposé peut-être.
Oui, de signer, ouais.
Vous avez refusé de signer, l'enquêtrice elle est restée ou elle est partie après?
Elle est sortie puis elle a frappé la porte de cellule vraiment fort là.
Ouais,
ouais. Et en plus mon bébé ressent tous ces chocs là c'est.
Mais ça c'est oui.
C'est stressant.
Et puis à un moment donné j'imagine vous avez réclamé une ambulance ou c'est eux qui ont appelé une ambulance? C'est arrivé comment?
C'est qu'il y avait deux policiers qui sont venus.
Oui.
Puis il dit que ton avocat veut te parler. Puis c'est là que j'étais, il dit, tiens, un cabinet, là. Puis les autres, ils se moquaient de moi, ils bouchaient les oreilles parce que j'avançais pas vite, parce que j'avais des douleurs.
Vous n'avez pas avancé en marchant.
C'est ça,
hein.
En marchant. Puis.
Donc vous avez décroché le téléphone, vous avez parlé avec votre avocat, c'est ça?
Oui, j'ai parlé avec mon avocat.
Qui vous disait quoi?
Elle m'a dit que j'ai bien fait de pas signer tant que j'aurais pas parlé. C'est, okay. C'était
et garder,
bien.
Et de garder le silence.
Oui. Oui. Puis c'est là qu'elle voyait que j'étais souffrante. Puis elle m'a dit, Madame Saint-Jean, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, là, je suis enceinte, j'ai des douleurs, j'ai des contractions. Puis ça me fait, c'est très douloureux, ça me fait mal. Puis là, puis c'est là qu'elle a dit, passe-moi l'argent. Et même elle était étonnée. Elle
ah,
dit,
c'est elle qui a demandé au policier de vous appeler une ambulance?
Oui.
My God, OK.
Puis là, ils m'ont appelé l'ambulance. C'est là que les ambulanciers sont venus.
Mais quand vous l'avez réclamé d'avoir une ambulance, ils n'ont pas accepté?
Non, ils n'ont pas accepté. Là,
il fallait qu'une avocate à l'appel pour
oui.
leur dire, envoyez une ambulance à madame, elle est vraiment...
Parce qu'elle me voyait souffrante là quand elle me parlait.
Quand vous a écouté?
Oui.
Oui. On va faire une pause musicale, on va reprendre peut-être la dernière partie de ce témoignage, madame.
Au-delà de nos mains. à compter les siens. Où sont les ailes qui porteront toutes les femmes du monde qui souffrent encore en Guinée, Corée, Inde, Yémen, Irak, Iran et Israël, Niger, Serbie et Palestine, le monde entier.
Rebonjour à Madame Rosilia Saint-Jean. Là, dans cette peut-être quatrième partie de votre témoignage, là nous sommes. Vous êtes conduite à l'hôpital par l'ambulance. Donc, pouvez-vous nous raconter à partir de quand l'ambulance était arrivée pour vous conduire à l'hôpital?
Les ambulanciers sont arrivés, mais les autres aussi, se sont moqués de moi parce qu'ils me croyaient pas, comme quoi que qui dit c'est pas de douleur ça. Puis moi j'étais dans mes douleurs puis des contractions, puis là ils m'ont conduit
à l'hôpital. Comment c'est arrivé à l'hôpital? Il y avait un médecin qui vous a consulté, j'imagine.
Oui, et c'est que mais avant ça j'ai dit c'était à Sainte-Justine, il fallait qu'ils m'amènent.
Ah, ils vous ont transféré,
ils ont préféré me lâcher. Ils disent c'est l'hôpital le plus proche, à Maisonneuve. Puis Maisonneuve ne connaît pas mon cas vu que c'est une grossesse à risque.
Ah, ils ont transféré à Sainte-Justine.
Oui, okay. C'est là qu'ils ont fait. Mais Maisonneuve m'a accepté, mais ils m'ont donné des traitements pour arrêter parce que j'ai saigné.
Ah, vous saignez, vous êtes rendu à l'hôpital?
Oui.
Le médecin, il a constaté que vous saignez?
Oui, j'ai saigné aussi, puis l'école était ouverte.
Mais avant l'événement, là, avant que le conjoint rentre à la maison à 4h du matin, est-ce que vous avez eu ces symptômes-là?
Non.
Vous n'avez pas eu ça?
Non.
Il n'y avait pas de douleur, il n'y a pas de saignement, il n'y a rien?
Non, pas de douleur, rien du tout.
Oui.
C'est parce que les mauvais traitements des policiers, tout ça, puis c'est ça qui a causé toutes ces
problèmes-là.
Les
douleurs, les problèmes.
Oui.
Donc, vous êtes transféré à l'hôpital de Sainte-Justine?
Oui, de Maisonneuve, ils m'ont transféré à l'hôpital.
Et vous avez bien dit qu'à Maisonneuve, le médecin a constaté qu'il y avait des saignements, vous saignez.
Oui.
Et qu'il vous a...
Que j'étais ouverte, là, 1,5 cm.
Oui.
La tête du bébé était déjà... c'était, normalement, c'était pas supposé. Ouais. C'était déjà comme tourné.
Oui, oui.
Puis,
Ils vous ont donné des médicaments pour calmer un petit peu la
douleur. Ils m'ont donné des médicaments pour calmer les douleurs.
Et après, contre, ça vous a transféré.
Les contractions. Puis avec des piqûres au cas où que le bébé vienne au monde pour les poumons du bébé.
Et vous êtes transféré après?
Oui. Après, ils m'ont retransféré à l'hôpital Sainte-Justine.
Oui.
Où est-ce que j'étais sous surveillance pour 24 heures pour le cœur du bébé, tout ça.
Oui.
Parce que les bébés souffraient vraiment là, puis c'était des vraies contractions. Puis c'est là que j'ai fait 3 jours.
Vous êtes resté hospitalisé 3 jours suite à l'événement?
Suite à l'événement.
Oui. Oui, c'est bon ça. Maintenant, mais une fois que vous êtes parti du poste de police, vous n'avez plus eu de contact avec les policiers, j'imagine?
Oh, j'ai plus de contact avec les autres. Oui. C'est juste qu'il fallait que je retourne pour les empreintes.
Pour les empreintes?
Les nefs.
Oui. Et vous êtes accusé de quoi aujourd'hui?
Oh, je suis accusé de.
De voie de feu ou de.
D'agression à main armée.
De agression à main armée?
Oui.
Contre votre conjoint?
Oui.
Et quand vous disiez main armée, c'est quoi le. Qu'est-ce qui parle avec l'arme? C'est quoi l'arme ici? Vous n'avez pas utilisé l'arme?
J'avais pas. Qu'est-ce que non, je n'ai pas utilisé un arme contre le monsieur, rien non. du tout.
C'est lui qui a inventé ça de sa tête?
Oui, il a inventé.
Mais l'arme, lui, il a dit qu'il vous avait pris
une lustre.
Ah, une lustre, un morceau de lustre.
Et puis...
Et quand les policiers sont rentrés, les policiers, est-ce qu'ils ont constaté qu'il y avait un morceau de lustre, quelque chose comme ça?
Non, tous mes morceaux de lustre sont là.
Il n'y a rien qui est cassé,
qui est cassé, rien du tout.
Oui. Madame, vous êtes restée quand même hospitalisée 3 jours à l'hôpital. Après ça, pendant ces 3 jours-là, est-ce que vous avez eu des contacts avec votre famille, vos enfants et tout?
Oui, ma famille me cherchait partout, puis mes enfants, ils étaient toutes seules, mais une chance que j'avais la famille. Ils ont pris une partie des enfants qui étaient plus jeunes,
oui.
Puis les 3 plus vieux sont restés ensemble.
Oui.
Puis vraiment, c'est que moi, je ne dormais pas. Tous ces stress-là, je pensais à mes enfants en arrière,
oui.
Puis plus les douleurs qui continuaient là, tout ça. Puis,
est-ce que vous jugez ça, madame Rosélia Saint-Jean, comme une descente à l'enfer?
C'est vraiment l'enfer, c'est vraiment horrible, je ne sais pas les mots encore là.
Vous ne trouvez pas les mots?
En tout cas, aucun être humain mérite d'être traité comme ça.
Oui.
Non. C'est tout enceinte de 29 semaines, presque 30 semaines, puis failli perdre ton bébé. Puis c'est vraiment l'enfer.
Oui. Et aujourd'hui, vous réagissez comme ça publiquement. Vous l'avez dit que vous souhaitez épargner à des femmes ou des victimes dans des semblables cas. Pensez-vous qu'il y aura des policiers aujourd'hui qui vont entendre votre message, votre témoignage? Pensez-vous que ces policiers ou ces policières qui sont d'un caractère comme ça brutal, pensez-vous que la prochaine fois ils vont faire attention quand ils sont devant une femme dans telle condition, dans telle situation?
Moi, tout ce que je souhaite, j'espère que ils vont faire attention à ça, parce que une femme, c'est vraiment fragile. Puis surtout quand on porte un bébé. Puis en plus, je leur ai dit que je suis enceinte, ils m'ont pas écouté.
Oui.
Ils m'ont pas cru. Pour moi, ils m'ont ignoré là. Un petit bébé.
Pensez-vous c'est aussi profilage racial aussi de votre cas, parce que vous êtes d'origine haïtienne, si je me trompe pas?
Moi, je crois que oui.
Oui, vous pensez aussi que parce que vous êtes d'origine d'autres. Mais madame, qu'est-ce que vous auriez souhaité que ces policiers, ils ont qu'est-ce que vous auriez souhaité à leur arrivée? Vous auriez souhaité simplement qu'ils vont vous parler, prendre votre version peut-être?
Oui, j'aurais souhaité qu'ils me parlent,
qu'ils font leur travail, puis qu'ils
exactement.
S'en vont. Vous n'avez pas commis un crime, vous n'avez rien.
Exactement.
Apparemment, vous n'avez rien commis de assez grave pour subir de tels traitements.
Oui, j'aurais aimé que ça se passe dans les calmes, parce que les enfants étaient là, puis voyaient leur maman minotée.
Oui, oui.
Puis la façon que j'étais habillée, c'était pas. une façon de sortir quelqu'un comme ça.
Oui.
C'est comme les fois, il faisait froid, les genoux. Là, jusqu'à date, j'ai des problèmes, pas capable de marcher. Puis mes enfants, je dois m'en occuper, faire manger. Quasiment, je suis plus capable de m'en occuper vraiment comme avant.
Est-ce qu'aujourd'hui, madame, nous sommes, il y a quelques semaines qui sont passées de l'événement, est-ce que vos enfants, ils vous parlent de l'incident?
Oui, c'est tout mon fils qui a 5 ans. Oui.
Ouais, 5 ans.
Il me parle toujours, pourquoi les policiers t'ont amené? Est-ce qu'ils t'ont amené en prison ou à l'hôpital?
Oui.
Moi, je ne sais pas quoi répondre parce que c'est vraiment traumatisant pour lui.
Pour les enfants, oui.
Je suis obligée de dire, j'étais à l'hôpital.
Oui. Peut-être, madame Saint-Jean, je ne sais pas, avez-vous des choses à dire maintenant? Est-ce que vous avez quelque chose d'important à dire à tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui?
Moi, aujourd'hui, c'est que j'ai peur des policiers. J'ai peur des autres.
Avant, est-ce que vous avez eu une peur des policiers?
Non.
Non. Vous avez eu, avant, vous avez toujours une image. Et cette image-là, aujourd'hui,
oui.
Elle a changé pour vous?
Oui, ça a changé parce
que... Vous n'avez plus le même regard qu'avant, madame?
Non. Parce que même, j'ai discuté à mon médecin, j'ai dit... Dernièrement, je dis que j'ai peur des policiers parce que s'il m'arrive quelque chose, j'ai peur de composer 911 pour commencer.
Vous refusez même de composer 911 même s'il y a,
ouais.
Même s'il y a quelque chose de grave, d'urgent?
Oui.
Parce que vous avez perdu totalement
les confiance. J'ai conduit, je prends mon auto pour aller faire l'épicerie. Je suis toujours en train de regarder s'il n'y en a pas un. Peut-être qu'ils vont me faire du mal, tout ça. Fait que je suis traumatisée.
C'est un traumatisme, oui.
Oui.
J'ai oublié de vous demander combien de policiers sont rentrés chez vous quand cette journée-là.
Oh, il y en avait 5 en haut. J'avais compté 5, mais il y en avait d'autres en bas.
Et il y avait plusieurs policiers.
Oui, il y en avait plusieurs.
Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire, à ajouter.
Oui. À tout le monde qui m'écoute, fait que je veux juste que justice soit faite. Puis je vois comme quoi que. C'est comme vous prévenir, c'est qu'aucun être humain aussi mérite d'être traité de la sorte, parce que c'est vraiment horrible qu'est-ce que j'ai vu. Je ne vous souhaite pas de vivre la même façon, les mêmes choses que moi.
Vous le souhaitez à personne, madame?
Oui, à personne.
Ben écoutez, à mon nom personnel, je vous remercie beaucoup de votre témoignage et de votre courage aussi.
Merci.
Et j'espère que des policiers et des policières, ils sont en train d'écouter notre antenne. Et peut-être la prochaine fois, ils vont réfléchir deux fois avant d'agir de cette manière-là, de cette brutalité-là.
Oui.
Merci bien, madame Saint-Jean Rosilia.
Oui, merci à vous.
Et bon courage.
Merci beaucoup.
Voilà, donc, avec de tels témoignages, mes chères auditrices, chers auditeurs, nous croyons fermement alerter l'opinion publique et attirer l'attention de nos politiciens à double prudence d'écouter le public. Écouter le public, aujourd'hui, c'est toujours plus préférable que demain. Donc, voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Permettez-moi de remercier Madame Saint-Jean d'avoir eu le courage de témoigner publiquement et j'espère que les policiers qui écoutent notre émission ralentissent un peu le pas. Une mère de 6 enfants, enceinte d'environ de 30 semaines, une grossesse à risque, l'intervention a pu être différemment. Merci à notre technicienne de son, Madame Mario Longuet. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM. À moi, mes chers auditrices, chers auditeurs, je vous dis à la prochaine épisode. Et
pour vos vacances au juste prix, 1-855 Mini-Prix ou 1-855-646-4774. Une agence de voyage d'ici vers tous les pays. 1-855 Mini-Prix. Service sans souci, toujours au juste prix. 1-855 Mini-Prix ou 1-855-646-4774. Détenteur d'un permis du Québec. Voyage, voyage.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Radio Centre-Ville vous invite à visiter sa page Facebook. Un endroit où vous pourrez vous procurer de beaux cadeaux à bon prix. Venez voir ce qu'on vous offre. Recherchez la page de Radio Centre-Ville sur Facebook. De bonnes aubaines vous y attendent.
Les productions Nuit d'Afrique présentent la 5e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor sont les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, et c'est tous les mardis et mercredis au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez découvrir et appuyer plus de 200 artistes originaires de 20 pays différents, ainsi qu'une extraordinaire diversité musicale. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde.
Depuis 35 ans, nous donnons le micro aux Montréalais et Montréalaises afin qu'ils se rencontrent. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.